De plus en plus, nous entendons parler de cybermenaces. Pourquoi deviendrait-elle de plus en plus importante ou de plus en plus menaçante? Eh bien, simplement parce que le monde dans lequel évoluent les entreprises aujourd'hui est de plus en plus ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ces entreprises proposent à leurs clients d'accéder à leurs services ou à leurs produits via Internet. Ça veut dire également que pour étendre leur capacité et leur réactivité face à la demande de leurs clients, elles s'appuient sur le cloud. Mais ça veut dire également qu'elles vont proposer à leurs collaborateurs, certains d'entre eux, parfois tous, d'accéder à des applications ou d'accéder à des données à distance, quel que soit l'endroit d'où les personnes travaillent. De fait, cela entraîne une vulnérabilité plus importante de ces entreprises et une vulnérabilité en particulier à cette cybermenace. Mais de quoi parlons-nous vraiment ? Que se passe-t-il lorsqu'une entreprise se fait voler des données ? Pour commencer, elle peut être en situation de devoir payer une rançon. Ensuite, elle subit un écornement net de l'image de son entreprise. De fait, elle perd la confiance de ses clients et potentiellement des parts de marché. Les entreprises françaises se font piller. Ce sont les mots très exacts qu'utilise Guillaume Poupard, directeur de l'ANSSI, qui pointe en particulier le risque autour du vol de données qui concerne la propriété intellectuelle. Imaginez se faire voler un plan ou se faire voler un brevet a une conséquence directe sur la pérennité de l'entreprise, mais également sur sa compétitivité, qui perd l'avantage de l'investissement fait en recherche et développement. Qu'est-ce que la cybercriminalité aujourd'hui? Quelle forme prend-elle? Comment on peut s'en prémunir et comment on peut construire un plan pour être résistant à cette criminalité? Parlons-en avec Bernard Ourgan-Lian. Bernard, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Alors, tu es directeur technique et sécurité Microsoft France et tu as la responsabilité de la conduite globale de la stratégie en termes de technologie et de sécurité pour Microsoft. J'ai quelques questions pour toi qui concernent la cybercriminalité. On entend parler d'attaques de plus en plus violentes, de plus en plus diverses qui touchent les entreprises et les organisations. Selon toi, comment évolue ce risque et comment évolue cette menace, cette cybermenace ?
Alors c'est vrai que cette cybermenace évolue de manière extrêmement significative, à la fois parce que ces menaces sont exercées de manière de plus en plus professionnelle. Donc il y a des cyberattaquants qui viennent au bureau comme toi et moi et qui ne viennent que pour attaquer les systèmes d'information, qui font ça en 3-8, le week-end, etc. Donc en fait, il y a une opération et une industrialisation des attaques qui est extrêmement visible. Par ailleurs, il y a évidemment un changement tout à fait important du rôle des États. Donc les États, pendant un certain temps, ont observé l'Internet un peu de loin, comme une sorte de bête un peu étrange. Et puis petit à petit, les États commencent à s'y intéresser, à la fois parce que ce sont bien évidemment des utilisateurs d'Internet, comme toi, moi et n'importe quel de nos concitoyens, mais aussi parce que les États ont le rôle de nous protéger en tant que citoyens. Ils ont le besoin d'assurer la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Et puis aussi, ils sont évidemment tentés d'utiliser Internet comme un nouvel espace sur lequel il conviendrait, le cas échéant, de se défendre et même d'attaquer. Donc on a vu effectivement l'arrivée de nouvelles attaques, peut-être la plus emblématique étant celle de la Corée du Nord dans le cas Sony, qui a fait effectivement beaucoup, beaucoup de bruit et qui a matérialisé de manière concrète ce genre d'attaque. Mais on peut, de manière à peu près indirecte, savoir qu'il y a de plus en plus d'États qui sont derrière des organisations et des regroupements de hackers très bien organisés, dont l'objectif est effectivement d'attaquer une entreprise, d'attaquer un État. Par exemple, en France, le ministère des Finances a été attaqué au moment précis où la France occupait la présidence du G20, il est relativement difficile d'imaginer que ça soit fait complètement par hasard et qu'il n'y ait pas eu un État derrière. Je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais le fait est que les profils d'attaques ont changé et il y a un certain nombre d'attaques qui sont de plus en plus orientées vers la destruction. Donc c'est là où l'Internet des objets qui fait son apparition commence à jouer un rôle et où on se rend compte que petit à petit, qu'on fait ce qui s'est passé sur les centrales nucléaires en Iran, il y a eu une cyberattaque très violente qui a eu comme objectif de détruire des centrifugeuses. Et ce genre d'attaque, ce sont évidemment des attaques qui ont été perpétrées par des États.
Je comprends. Alors, c'est assez inquiétant de t'entendre décrire ce type d'attaque-là. Pour autant, on sait qu'il existe aujourd'hui des solutions. À l'instar de Guillaume Poupard, directeur de l'ANSSI aux Assises de la Sécurité, de ton côté, tu recommanderais quoi? Quels seraient selon toi les piliers d'une stratégie de sécurité efficace?
Jusqu'à un passé très récent, la plupart des entreprises et des organisations étaient très focalisées sur la défense. Bien souvent, en essayant d'ériger autour du système d'information des murailles, un peu comme un château fort moyenâgeux, dont l'objectif était d'empêcher les méchants d'attaquer et de rentrer dans le système d'information. Cette façon de faire a aujourd'hui de plus en plus de limites, parce que pour qu'un système d'information soit utile, il faut que ce soit ouvert sur le monde, vers les partenaires, les clients, etc. Donc on ne peut plus concevoir aujourd'hui un système d'information fermé. À partir du moment où le système d'information est ouvert, il faut raisonner et se placer dans la posture mentale dans laquelle on se dit « il y aura un jour une attaque, cette attaque permettra de rentrer dans mon système d'information ». Et c'est là que doivent se mettre en place deux piliers tout à fait fondamentaux, qui est à la fois la capacité de détection, détecter y compris des signaux faibles de probabilité d'occurrence très limitée, et pour lequel le big data et le machine learning vont jouer un rôle absolument déterminant dans les années à venir. Et par ailleurs, il faut aussi être dans une logique où on a construit un plan permettant de faire en sorte que si jamais une telle éventualité arrive, on soit capable de réagir. Et la meilleure façon pour réagir, c'est de construire l'architecture de sécurité de son système d'information de la même façon qu'on construit un sous-marin, avec des caissons étanches, pour faire en sorte que si un code malfaisant rentre dans le système d'information, on puisse tout de suite fermer le caisson dans lequel il est rentré, sans que, pour autant, la totalité du système d'information soit paralysée. Donc ces approches-là, qui allient à la fois bien sûr la défense, mais aussi la détection et la capacité de réaction, sont des éléments tout à fait fondamentaux qu'il faut prendre en compte aujourd'hui.
Je comprends bien. Alors on passerait du château fort au sous-marin, comme ça, d'un seul coup. Et la prudence que tu évoques là, on la comprend bien. La question que je me pose et que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, avec cette inquiétude face à la sécurité, on ne va pas voir une sorte de frein ou d'inhibition à l'innovation et de ralentissement des transformations des entreprises, simplement motivées par la peur?
Je pense que non, en fait. À la fois parce que les entreprises qui n'innovent pas, elles sont condamnées irrémédiablement. Elles ont l'obligation d'innover. Donc, la peur, on dit souvent qu'elle est mauvaise conseillère. Dans le cas présent, on doit innover. Pour autant, on ne doit pas non plus imaginer qu'il n'y a pas de risque. On doit se focaliser sur une vraie capacité à défendre son système d'information et en particulier les données qui ont vraiment de la valeur en son sein, de telle façon que son patrimoine informationnel soit toujours protégé. Pour cela, il est nécessaire à la fois de sensibiliser la totalité de l'entreprise, y compris jusqu'à son comité exécutif, et à faire en sorte que la totalité du management embrasse la sécurité, non pas comme un frein, mais comme une capacité à faire, comme une capacité à réaliser ses objectifs business. À partir de là, on change complètement la dimension de la sécurité, qui a toujours un peu ce côté un peu castrateur, la sécurité empêche de. La sécurité doit tout au contraire être vue comme un moyen de faire. Et dans le monde interconnecté dans lequel on est, mettre en œuvre de la sécurité, c'est tout simplement rendre son business possible. Donc il ne faut pas le voir comme un inhibiteur, mais tout au contraire comme un facilitateur. Une société qui irait de manière très naïve se connecter à l'Internet sans rien du tout protéger, il est clair qu'au bout de quelques semaines, elle disparaîtrait inévitablement. Donc c'est juste le prix à payer, qui nécessite à la fois une sensibilisation du top management de l'entreprise et une prise en compte de cette dimension du haut en bas de l'entreprise. Il faut aussi sensibiliser donc l'ensemble des collaborateurs, faire en sorte qu'on met en œuvre les technologies, mais les technologies, ça n'est pas tout dans cet environnement. Il faut enfin mettre en place les processus qui permettent de gérer la sécurité de bout en bout, depuis le terminal, le moins géré jusqu'au cloud public, de telle façon qu'on ait une vision totalement intégrée de la gestion des risques et de la capacité qu'a l'entreprise d'y faire face pour réussir effectivement à faire son business au quotidien.
Je comprends. Alors, ça reviendrait à dire, au fond, que la sécurité nous engage à innover peut-être même plus encore ou à minima dans la façon de travailler, dans notre façon de travailler ensemble. Merci beaucoup, Bernard, pour ces explications.
Je t'en prie, Isabelle.
Alors, on l'a vu, la cybermenace se prononce, reste virulente, violente. Face à elle, faire le choix d'une technologie dans laquelle on a confiance pour rester engagé dans sa transformation numérique et pour rester sur la route de l'innovation, c'est critique. Mais ce qui l'est en plus encore certainement, c'est l'engagement de tous les rôles, de toutes les fonctions d'une organisation ou d'une entreprise pour venir lutter contre ce risque et contre cette menace.